Drop my needle.
Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. La sécurité en informatique est un sujet de plus en plus important. Et aujourd'hui, à mesure qu'une entreprise grandit, tout le monde sait que la sécurité ne se gère pas qu'au niveau de son application ou de son service, mais que c'est vraiment tout le SI qu'il faut protéger. Mais dans cette politique de sécurité, le dev se positionne un peu comme un power user, un utilisateur éclairé qui devrait être au-dessus, au moins en tout cas, d'une partie de ses règles. Mais alors, le dev, est-il vraiment au-dessus du lot ? Quel impact une PSSI a-t-elle sur la vie d'un dev et la sécurité peut-elle être globale ? Pour répondre à ces questions de protection, je ne reçois pas Meurtot et Riggs, mais ils s'y connaissent en sécurité. Zach et Benjamin, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors, bonjour, je vais vous laisser, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient peut-être pas ? Et on va commencer par, sur la lettre A, c'est Zach.
Hello, donc bonjour, moi c'est Zach, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de la sécurité de l'information. Donc j'ai fait tout, comme je disais tout à l'heure, je suis venu du mauvais côté de la barrière. J'étais ops à l'époque où la guerre des devs et des ops faisait rage, donc administrateur sécurité en l'occurrence. Ensuite j'ai suivi un parcours assez classique en pentester, auditeur, ce genre de choses, avant de m'engager dans une voie plutôt de conciliation de tous les aspects de la sécurité, donc en tant que RSSI. Et là depuis quelques mois maintenant, je suis RSSI du groupe Le Bon Coin, donc voilà.
Donc Le Bon Coin, c'est quand même un gros sujet, j'imagine,
ouais.
Au quotidien.
Ouais, plutôt parce que c'est une entreprise qui est vraiment agile. Alors c'est un ensemble d'entreprises, hein. Il y a Le Bon Coin qu'on connaît tous, hein, qui est connu par un Français sur deux au moins. Et ensuite on a pas mal de marques dedans, hein. On a Vite Dressing, Locason, etc. Et oui, ça dev beaucoup, ça code beaucoup, ça met beaucoup tout le temps. On continue. Donc la sécurité est un gros sujet chez nous du quotidien et pour tous les collaborateurs.
Top. Et Guillaume, et je crois que j'ai dit Benjamin dans l'intro, d'accord.
Non mais ça me va bien. Non,
je suis désolé.
Le mec, il est tellement sécure qu'il est là sous une fausse identité en fait.
C'est un pen test du podcast, c'est pour ça, voir si ça marche ou pas. Quoi. Guillaume, du coup.
Oui. Donc Guillaume aussi de mon autre prénom, donc si Zach vient du mauvais côté de la barrière, moi je pense que je viens carrément de la mauvaise planète, puisque je suis du côté plutôt gouvernance, je suis pas dev au départ, donc j'apporte cette perspective plus sécu, mais du point de vue gouvernance, gestion, point de vue métier on va dire. Donc j'étais consultant sur ces sujets de gouvernance, rédaction de PSSI, analyse de risque, sensibilisation, conformité RGPD, pendant quelques années. Je suis toujours consultant sur ces sujets-là aujourd'hui, mais plus à mon compte. Et en parallèle, j'ai cofondé Finasoft, qui est un logiciel pour réaliser ces analyses de risque plus facilement, et notamment l'intégration de la sécurité dans les projets. Et c'est également une matière que j'enseigne donc à HEC Paris, la cybersécurité.
Donc tu baignes dans la cybersécurité de manière permanente depuis un long moment.
C'est une passion et mon quotidien, et la preuve qu'on a complètement son rôle à jouer aussi en tant que profil non-tech. Mais ce qui est intéressant, c'est justement aussi pour des profils comme moi d'être en échange permanent avec des profils beaucoup plus tech et apprendre à bâtir quand même un langage commun. Donc au début, c'est pas toujours évident, mais maintenant, ça y est, je commence à avoir une certaine expérience sur le sujet. Et en fait, on s'enrichit des deux perspectives. Et je pense que ce sujet est vraiment en plein. Le sujet de la PSSI, comme le sujet de l'analyse de risque d'ailleurs, est vraiment au cœur de comment des profils tech et non tech peuvent se retrouver ensemble et parler de sécu. Ouais.
Alors, juste petit conseil avant qu'on continue l'enregistrement, reste bien proche du micro
parce que
sinon on t'entend de moins en moins.
Ok.
Merci beaucoup du coup pour ces présentations. Donc vous baignez effectivement dans la sécurité de manière permanente. On se voit aujourd'hui pour parler du coup de la PSSI et un petit peu de tout ce que ça impacte pour de tout ce que ça implique pardon pour les développeurs au quotidien. Pour commencer très simplement, une PSSI c'est quoi? On va commencer par Guillaume.
Une PSSI, c'est quoi? Donc, la politique de sécurité des systèmes d'information. C'est un document qui se veut assez court, une vingtaine de pages, parfois plus, mais en tout cas, on essaye de le rendre le plus synthétique possible. L'objectif, c'est de décrire sur ce document les grandes orientations de l'organisation en termes de sécurité, les enjeux, pourquoi est-ce que la sécurité c'est important pour nous, est-ce qu'on a des enjeux de confidentialité sur certaines données, est-ce qu'on a des enjeux réglementaires, pourquoi la sécurité c'est important, c'est la question de base, c'est quoi mes enjeux, et qu'est-ce que je mets en place dans les grandes lignes pour répondre à ces enjeux, et dans ce que je mets en place, donc ce qu'on appelle une gouvernance, et une gouvernance c'est quoi, c'est notamment des rôles, des responsabilités. Donc ce document, il va définir qui est responsable de quoi dans la mise en place de cette politique. La notion de responsabilité, elle est très importante dans le document. Et elle déroule un certain nombre de chapitres sur des thématiques. Donc chacun décide de l'organiser comme il le souhaite. Gestion des accès, chiffrement, sécurité des développements. Donc ça peut varier d'une politique à l'autre. Et du coup, chacun de ces chapitres va décrire les exigences qui sont attendues sur le sujet en question, les responsabilités, mais les exigences vraiment au niveau. C'est-à-dire que la PSSI est un document qui normalement doit rester stable et qu'on doit changer le moins possible, sauf évolution majeure dans l'organisation. Ça veut dire qu'on ne va pas rentrer sur les sujets opérationnels, des outils qui sont utilisés, des procédures, donc ça c'est des documents vraiment autres qui vont compléter. Mais voilà, donc le document de la PSSI c'est vraiment le document qui décrit les orientations générales, les exigences génériques autour desquelles tout le monde doit se retrouver dans l'entreprise et qui est complété par des procédures, des chartes, etc. qui vont préciser le sujet.
Donc on parle à aucun moment ni d'outils, c'est du coup c'est vague en fait comme contenu ou
Oui, plutôt ça va être très vague. En fait, il y a une partie, on pourrait découper la PSSI en trois parties, on va dire. La première, c'est la lettre de marque. Hein, tu sais, c'est ce qu'on donnait aux corsaires pour qu'ils puissent aller couler des bateaux sans qu'on les emmène, sans qu'on les envoie aux galères. Donc, la première partie, c'est clairement de dire, voilà, la sécurité, c'est important. On peut l'habiller de plein de manières, mais en gros, on dit, la sécurité, c'est important. Le COMEX, le PDG, le DG, le directeur, le patron, les patrons, les patronnes, le prennent au sérieux. La deuxième partie, c'est la gouvernance. Tu as parlé tout à l'heure de power user. Concrètement, qu'est-ce que le power user? On va rentrer, je pense, plus en détail, mais avant d'avoir des droits, c'est surtout des devoirs d'être un power user. Et la troisième partie, oui ça va être des thématiques génériques sur lesquelles on va développer des exigences, et on veut pas rentrer dans les détails, parce que si on rentre dans les détails, qu'on nomme des outils, qu'on donne, typiquement, imaginons qu'on parle de langage dans cette PSSI, ce sera très compliqué de la maintenir à jour, et en cas d'évolution ou autre, imaginons qu'on, même si on change pas de langage du jour au lendemain dans une entreprise, eh bien si on a cette évolution là, on est un peu embêté, parce qu'il faut tout réviser, il faut tout checker, etc. Donc ça va vraiment rester l'étape de la loi, mais de manière très générale. Tu ne voleras point, on rentre pas dans les détails, est-ce que tu voles pas du pain ou est-ce que tu voles pas la crémière. On va rester très 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 générique. Et ensuite, on fera des procédures, on fera des documents qui, derrière eux, vont détailler, qui seront plus flex, qui seront à la main d'ailleurs des équipes qui diront non, nous, on veut respecter ça dans l'état de l'esprit, mais attention, on n'a pas envie de voler, mais par contre, si tu voles pour donner... je suis en train de donner des trucs d'anarchiste, là, c'est horrible, on peut avoir des problèmes.
Donc en fait, c'est rester suffisamment agnostique pour qu'en fait, ça s'applique à tous les cas de figure présents et futurs, en fait.
C'est ça, exactement. Ouais. Et dans l'esprit, pour continuer un peu sur cette partie politique, c'est vraiment de dire, on dit ce qu'on doit faire, en fait, on dit ce qu'on doit faire pour le faire derrière et pour le mesurer. Donc c'est principalement autour de ça. Hein. C'est...
Si tu veux, par exemple... donc tu parlais du fait que voilà, si on commence à évoquer des langages, on n'est plus vraiment dans le rôle de ce que doit être une PSSI. La PSSI, par exemple, si elle veut traiter du sujet des langages en dev, elle va se contenter de dire, je dis n'importe quoi, il faut voir si c'est pertinent, mais les développeurs ne doivent utiliser qu'un langage commun à tous les projets de type n'importe, mais sans rentrer dans les détails, parce que voilà, on a juste besoin de se dire quelle est la règle principale, et après c'est un autre sujet de se dire comment elle s'applique, et elle peut s'appliquer différemment. La PSSI, elle va dire chaque utilisateur doit avoir un identifiant mot de passe unique avec 12 caractères au moins, mais elle va pas forcément rentrer dans les détails de quel gestionnaire de mot de passe j'utilise. Donc voilà, ça donne des directions, c'est un peu comme l'équivalent d'une constitution pour un État. Ça donne des directions qui donnent des horizons. Voilà, on doit pas, donc on sait que on doit pas aller faire quelque chose qui soit contraire à ces directions. Mais au sein de tout ce qui n'est pas contraire, il y a cette latitude, voilà, pour décliner ça de façon opérationnelle sur des outils différents, différentes façons de faire. Donc ça va dire par exemple, il faut mettre en place des processus de validation pour accorder des droits administrateurs. Voilà, ça dit qu'il faut mettre ça en place. Après, ça rentre pas dans les détails forcément de, ça peut être un choix, mais ça rentre pas dans les détails nécessairement de se dire quel process exactement on met en place, ouais, et qui on implique. Enfin, c'est ça un peu l'idée.
Mais du coup, la sécurité, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, enfin, notamment avec les nombres de startups qui explosent, enfin, les sujets qui sont de plus en plus en ligne. J'imagine que du coup, le concept de la PSSI aussi a beaucoup changé au travers le temps. Vous faites ça, ouais, depuis un petit moment. C'est quoi le changement le plus important que vous avez pu constater, tu vois, en termes de tendance, sur plusieurs années ou sur plusieurs décennies, selon depuis le temps que vous faites ça, c'est quoi les grands changements qu'il y a eu jusque-là?
Bah déjà, le grand changement majeur, c'est que dans la PSSI, maintenant, le COMEX est impliqué. C'est un document qui permet vraiment d'impliquer le COMEX dans la sécurité, alors qu'avant, mais c'est lié à l'évolution du rôle de la sécurité qui auparavant était, on va dire, une expertise gérée par des experts, et maintenant qui est devenu un sujet stratégique. C'est quelque chose qui se reflète aussi même dans l'évolution du rôle du RSSI, qui avant était un profil purement technique, qui est maintenant occupé aussi par des personnes qui ne sont pas forcément techniques au départ, parce que la composante non technique est devenue majoritaire presque.
Ouais, ça, alors ça c'est clairement le côté lettre de marque, hein, tu vois, c'est clairement le COMEX, le DG, alors, pour les grandes entreprises, qui va dire je vous missionne pour faire de la sécurité. Ça, c'est ce qui donne la légitimité pour être transversal, pour aller voir les services généraux, pour aller voir la direction financière, de leur dire non, maintenant vos ordinateurs, vous n'utilisez pas le même ordinateur pour faire les transferts de finances et puis pour aller sur Facebook. Mais je pense à un autre point qui a changé aussi, c'est parce que tous ces changements-là, ils sont liés, de mon point de vue, à des changements structurels tout autour. Donc, je vais laisser la RGPD pour après, mais c'est aussi tout ce qui est maturité en fait ambiante. C'est-à-dire que entre les normes ISO 27001, etc., qui ont ou autres d'ailleurs, hein, qui ont pris le pas et qui imposent quelque part aux entreprises en fait, bah, d'avoir une PSSI. Aujourd'hui, si t'es une grande entreprise, alors je peux parler de mon cas, quand on contractualise avec une entreprise, un des documents de base qu'on demande, c'est leur PSSI, pour voir qu'est-ce qui s'impose comme pratique de sécurité, etc. Eh bien, en fait, si on l'a pas, c'est un peu embêtant. Et aujourd'hui, toutes les normes vont vous demander d'avoir une PSSI. Donc, c'est de facto quelque chose qui est demandé. Donc, toutes les entreprises vont essayer d'en créer, etc., ne serait-ce que pour répondre à des appels d'offres. Un autre changement majeur, en fait, au-delà de ce petit contexte, c'est la structuration de la PSSI. J'ai l'impression qu'avant, la PSSI, c'était un truc fourre-tout. C'est-à-dire qu'on avait des PSSI, tu parlais tout à l'heure de 20 pages idéalement. En fait, les PSSI, elles faisaient, je ne veux pas dire 120 pages, c'est mon côté marseillais, mais elles étaient assez imposantes. Et en fin de compte, il y avait tout. Il y avait même du détail. Moi, j'ai vu des PSSI vraiment avec tellement de détails pour dire attention, nous, on respecte la sécurité, on dit bien tout ce qu'il faut faire et on fait ce qu'on dit, comme disait l'autre, comment, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, elles sont de plus en plus petites. Je pense qu'il y en a une que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Elle faisait 6 pages, en fait, ou peut-être moins. Et tout le reste, c'est des modules. C'est-à-dire que la PSSI, elle ne sert plus que de lettres d'engagement, en fait, ou de lettres de marque qui dit le RSSI a le droit de faire ci, ça, il y a un comité de pilotage, il y a tel truc, il y a machin. Et ensuite, c'est que des politiques annexes qui sont changées au gré des méthodologies, des outils, des personnes, des KPI, des mouvements. Et puis, elles sont annexées, etc. Donc ça la forme, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années.
Ouais. Et est-ce que dans les changements, parce que c'est ce que je disais un petit peu en intro, c'est-à-dire que c'est une vision de la sécurité aussi qui est très globale, c'est-à-dire que c'est pas uniquement se dire je crée un service avec une API qui est ouverte sur le monde et donc il faut que je sécurise mes flux entrants et sortants. C'est aussi une vision de la sécurité globale au sein de toute l'entreprise, c'est-à-dire que tu vois, tu évoquais tout à l'heure effectivement le cas de on prend pas le même ordinateur pour aller sur Facebook que pour faire les virements, donc c'est vraiment se dire que tout le monde est concerné par ce sujet-là. Du coup, ma question, c'est est-ce que cette tendance qu'il y a eu, est-ce que les PCC au début, c'était déjà ça, c'est-à-dire que ça s'appliquait à tout le monde, et maintenant, il y a un volet qui est peut-être plus précis sur la sécurité de l'application qu'on ouvre sur le monde, ou est-ce qu'avant, on s'intéressait surtout à la sécurité de l'application et que maintenant, on a réalisé qu'en fait, même la standardiste, quand elle ouvre ses emails, si elle clique sur n'importe quoi, en fait, ça met aussi en péril la sécurité de toute la structure.
Je pense qu'en théorie, la politique a toujours été censée s'appliquer à tout le monde. Maintenant, la réalité a rattrapé les organisations et maintenant, c'est beaucoup plus le cas. Et donc, je vois, c'est une évolution de réalité maintenant. C'est juste qu'il y a une prise de conscience liée aux impacts des sujets de sécu. Et maintenant, c'est un document dont les managers doivent prendre connaissance. Après, faut dire aussi que la PSSI, elle doit être compréhensible par tous, mais je dirais que les documents qui sont plus à visée générale dans l'entreprise, ça reste les chartes, par exemple. L'utilisateur lambda, il va plus regarder la charte utilisateur que la PSSI. Les managers, éventuellement, vont regarder la PSSI, mais voilà, après, disons qu'on va décliner de façon documentaire ça pour chaque population. Les développeurs vont éventuellement avoir leur charte, les administrateurs. Donc après, voilà, on va avoir des documents plus pratiques et qui vont parler directement aux personnes. Je dirais que le rôle premier de la PSSI, avant même d'être un document à diffuser pour tout le monde, voilà, c'est montrer en interne qu'il y a le soutien vraiment du COMEX pour mettre en place les éléments de cette PSSI, et comme le disait très bien Zach, une évolution majeure, un document aussi pour montrer à l'extérieur qu'on se conforme et qu'on fait des choses.
Oui, parce qu'il y a un côté image de marque aussi maintenant
Ouais,
sur ce
mais
sujet.
complètement. Complètement, ouais. Je pense il y a aussi en fait dans la quantité de ce que dit Guillaume. En fait, moi, quand j'arrive dans des boîtes, j'aime bien poser des questions gênantes, hein, comme pour la finance, quand je leur dis, mais c'est quoi l'ordinateur que vous utilisez pour aller sur Facebook, c'est lequel avec lequel vous faites des virements, etc. Une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous avez lu la PSSI? Est-ce que vous avez lu la charte informatique ou tel truc, et où est-ce que vous les trouvez? Où est-ce que vous exposez vos process? Alors souvent on me dit c'est Confluence. Ah oui, est-ce que la finance a accès au Confluence? Ben non, en fait, ils n'y ont pas, c'est que les équipes tech. Et ce qui me choquait par le passé, en fait, c'est que souvent la réponse était ben non, on n'a pas lu la PSSI, etc. Et ce que je remarquais, c'est que ce genre de document, c'était fait par des happy few, en fait, c'était l'équipe sécurité ou l'équipe IT ou autre qui faisait ces documents-là. Soit pour répondre à des contraintes réglementaires, soit parce qu'ils savaient qu'il fallait le faire, mais ils le font, mais que pour eux, enfin, c'est un truc un peu tordu. Et ce qui change aujourd'hui, c'est cette exposition. C'est l'exposition de la PSSI, mais aussi le fait d'embarquer les gens pour la construire. Alors, ça me fait penser au fait que dans la PSSI de mon entreprise actuelle, je vais rester un peu discret mais pas trop, mon CTO, coucou Julien, il m'a obligé de mettre le fait que, enfin il m'a obligé, c'est une manière de parler, parce que tu sais, on écrit un peu en mode doit, devrait, etc. devrait pour avoir des améliorations, et puis doit pour marquer vraiment quelque chose qu'on doit faire, et puis qu'on va mesurer, sur laquelle on va essayer de s'améliorer. Et typiquement, nous, on prend le parti de embarquer des collaborateurs pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'ils nous disent bah ça, je suis pas à l'aise avec ça, ça il faudrait mettre ça, donc y avoir une évolution comme ça de la PSSI. Et du fait que on prend la température des gens dans des comités de sécurité, pareil, ça aujourd'hui la sécurité elle est de plus en plus démocratique, je le dis entre guillemets, on invite plein d'autres gens en fait, pas que des gens de la sécurité, pas que des ayatollahs de la sécurité, mais du métier, des devs, des admins, et puis on essaie de construire ensemble. Par rapport à leurs besoins, j'aime bien cette expression, pour répondre à leurs besoins et pour sécuriser leurs besoins.
Oui, parce que on peut avoir l'image que la sécurité avant, tu vois, vous parliez de RSSI. Moi, j'ai l'impression que pendant longtemps, ce rôle, on le demandait au CTO, qui gérait une équipe en général de développeurs, qui a un produit à gérer, à mettre en prod. Et donc, en fait, la PSSI, c'est pas hors scope pour lui, mais ça déborde quand même assez fortement de son scope à lui. Et j'arrive pas à mesurer dans quel j'arrive pas à mesurer à quel point c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui d'avoir un RSSI qui est distinct du CTO, ou si c'est encore quelque chose de très de très présent dans les startups ou dans les boîtes en général.
Je pense que c'est une question de charge de travail en fait, puisque le CTO il peut pas s'occuper de tout. Et aujourd'hui la sécurité elle est tellement transverse et on permet à ce qu'elle soit transverse. Donc oui, quand tu as une startup de 4 personnes et que tu es en train de lancer ton sujet, que chacun prend le lead sur ce qu'il aime bien, alors j'ai vécu ça il y a très longtemps, tu as le financier qui est très bon pour calculer les haricots ou les sous pardon, le commercial qui a les contacts de tout le monde et qui peut te décrocher n'importe lequel, et puis tu as le tech qui fait tout le reste, qui fait toute la partie tech. Là ça fait sens même quand tu grandis de manière modeste, j'ai envie de dire, mais quand tu prends de l'ampleur et que tu commences à te structurer rapidement, faut avoir une personne en fait à temps plein pour s'occuper de ça, ne serait-ce que pour gérer la charge de travail en fait. Encore tout à l'heure d'ailleurs, j'ai parlé à une entreprise, bon, je dirais non par discrétion de base, ils avaient pas des RSSI. On parlait de PSSI, on parlait de telle chose et telle chose, et ils avaient rien qui était structuré. Alors bien sûr les bonnes pratiques, ils les avaient toutes en tête. Oui, ils me disaient oui. Alors de temps en temps on met des mises à jour. Je leur dis ok, mais vous les contrôlez comment? Est-ce que vous êtes sûr que vous les appliquez? Ah non, mais en fait nous on a juste dit aux gens quand on leur donne leur ordinateur de bien penser à mettre les mises à jour. Donc tu vois, il y a tout un chantier de sécurité qui commence à se dessiner, qui est pris par personne. Et rien que le suivi, la coordination de tout ça, puisque c'est ça le job du RSSI en fin de compte. Le RSSI c'est un orchestrateur hein, principalement, et la PSSI c'est la trame qui regarde un peu de, tu sais les chefs d'orchestre, ils regardent discrètement mais ils la connaissent par cœur, mais tu l'écris quand même et tu donnes le papier à tout le monde pour qu'on joue tous le même les mêmes notes quoi. Et donc ça en fait c'est un boulot à temps plein, et pareil tu vas vouloir le transférer à quelqu'un, tout comme toi quand t'as RSSI, tu as envie de, je vais pas tout faire, tu vois, genre je vais avoir des champions de sécurité chez les devs, je vais avoir pas mal de gens sur lesquels je vais m'appuyer pour pouvoir jouer leur partition.
Du coup pour toi aussi Guillaume, le CTO c'est normal qu'il prenne ce rôle au début, mais après il faut le déléguer, ou pour toi dès le début faudrait pas que ce soit le CTO qui s'en occupe?
Il y a deux éléments que je pourrais apporter en complément à ce que vient de dire Zach. Il y a en effet le vrai sujet de la charge de travail, c'est-à-dire qu'à un moment, le CTO ne peut pas tout gérer. Il y a aussi le sujet de... Alors, sur les deux que j'allais dire, j'en ai oublié un, c'est pas grave, mais il m'en reste un. Il y a le sujet de la perspective qui est différente aussi à un moment, c'est-à-dire que le CTO, son objectif, c'est que les choses marchent. Les développeurs, de façon générale, l'objectif, c'est que les choses marchent. Maintenant, dans la culture, la sécurité devient plus importante, mais voilà, c'est un objectif, on va dire, plus secondaire. La priorité, c'est que ça marche. Et le RSSI, son rôle, et c'est intéressant d'avoir une autre personne pour avoir ce regard, qui n'a pas cet intérêt, on va dire, son rôle, ça va être de mettre des warnings et de dire attention, là on peut pas faire comme ça, etc. Et parfois ça aide vraiment d'avoir une autre personne avec cette perspective là. Et par exemple, en fait, disons que il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Le curseur il évolue, le curseur entre le besoin de productivité qui est important, surtout au démarrage, faut dire ce qui est, pour une startup, c'est la productivité qui est importante, d'où le fait que souvent la sécurité est négligée. Mais il y a un curseur qui doit évoluer entre la productivité et les risques qu'on prend qui pourraient réduire à néant cette productivité. Et le rôle du RSSI, c'est de représenter ce marqueur-là, qui encore une fois peut évoluer dans le temps, c'est pas le même au début et dans l'évolution. Et le troisième aspect du coup qui me revient, c'est toujours ce côté que vis-à-vis de l'extérieur, c'est de plus en plus un attendu des clients, des partenaires, de se dire cette organisation, elle a un RSSI. Parce que c'est la garantie qu'il y a une personne indépendante, cette notion d'indépendance, elle est importante, indépendante dans l'entreprise, qui exprime ce point de vue du risque, Après, voilà, peut se poser la question de justement à quel point le RSSI il est vraiment indépendant, parce que parfois il y a des organisations qui nomment le RSSI, mais on voit que dans la façon dont l'organisation est faite, en réalité, le RSSI n'a aucune indépendance et ça reste une annexe. Parfois, j'ai vu des organisations où le RSSI était le N-3, voire -4 du DSI. Bon, voilà, mais voilà, en complément, ce que je dirais.
Mais ça, du coup, en général, c'est le genre de structure où à un moment, il y a un incident qui se présente et du coup, d'un coup, le RSSI il est catapulté très très haut. Quoi.
C'est comme une entreprise très célèbre en fait qui a vu ses budgets multipliés par 100 ou par 1000, je ne me rappelle plus. Mais oui, c'est malheureusement ça. Hein, c'est que la réalité nous rattrape en fait, réalité rattrape tout cela. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a. Il y a eu cette évolution naturelle en fait de la sécurité et cette remise au centre en fait de la sécurité, et c'est pour ça qu'il y a ce shift, comme je disais en fait. On va être honnête en fait, quand on est que 4, on va pas se permettre, et qu'on sait pas si l'appli va marcher ou pas, et qu'on est en train de créer et puis dessiner en fait. Quelque part, je me demande, on croit à notre rêve, à notre solution, à notre startup, mais quelque part, on se dit, ouais, est-ce que ça va vraiment décoller ? Et puis, à un moment donné, ça explose et on est content et ça marche, ou pas, d'ailleurs. On va dans une autre configuration où ça marche. Et là, on se dit, écoute, je ne peux pas tout faire moi-même, il me faut vraiment quelqu'un pour m'accompagner sur cette partie-là.
Du coup, on parle justement de ces boîtes qui subissent une data breach, une faille, ou tout ce qu'on veut, et qui, du coup, changent un peu leur investissement, comme tu le disais, sur la sécurité. On parle souvent de ce jeu du chat et de la souris entre les attaquants et les défendants, on va dire. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que, en toute sincérité, on est juste entre nous, il y a quelques personnes qui sont en live, est-ce qu'en toute sincérité, il y a quand même des boîtes où les défendants sont en avance par rapport aux attaquants ? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà vu des boîtes qui ont mis en place une PSSI avant d'avoir connu un problème ? Ou c'est à chaque fois c'est à chaque fois fait en réaction, c'est-à-dire qu'on corrige un truc parce qu'en fait, on n'avait pas anticipé le problème et on s'est fait poner sur un truc et...
Aujourd'hui, oui. Il y a plein de sociétés aujourd'hui qui mettent des PSSI, encore heureux, avant de se faire poney. Maintenant, tout le reste, est-ce qu'il est mis en place, c'est moins sûr. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, la PSSI, c'est devenu... limite, en fait, la PSSI, c'est plus un problème. Oui. La PSSI, c'est plus un problème, c'est plutôt ce qui est dedans qui va être innovant, et son application, exactement, les KPI qui vont aller avec, etc., qui vont être innovants. J'ai droppé un truc, je vais casser l'ambiance, typiquement ne pas utiliser des données de prod en pré-prod. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut écrire dans la PSSI pour bien indiquer qu'on est une entreprise qui respecte les données de ses clients, par exemple, ou autre. Eh bien ça, on va l'écrire, et puis il y a peu d'entreprises qui l'écrivent. Il y a pas mal de petits prestataires qui viennent à gauche à droite, qu'on recale parce qu'ils n'acceptent pas ça quand on leur met dans leur contractualisation. Parce que la PSSI, quelque part, on la retranscrit aussi en plan d'assurance sécurité. Pour dire aux entreprises, nous on s'applique ça en intérieur, maintenant si vous voulez travailler avec nous, il faut que vous appliquiez ça. Et il y en a plein qui disent, non en fait on a besoin de vos données. Attendez, mais c'est pas une blague ? Quoi ? Vous ne mettez pas à jour vos ordinateurs en 2022 ?
Oui, mais les données de pré-prod, si c'est des données de prod d'il y a un an, est-ce que c'est vraiment des données de prod ?
Je pense qu'il y a des personnes à la CNIL qui font oui de la tête.
J'imagine. Du coup, toi, Guillaume, je t'ai senti aussi opinion du chef sur ce truc-là. Pour toi aussi, il y a quand même des gens qui ont une PSSI avant qu'il y ait un problème. Mais parce que tu vois, tu nous disais tout à l'heure aussi que c'est un document qui se veut suffisamment vague et générique pour s'appliquer à tous les cas. Est-ce que c'est pas normal du coup que l'application soit je sais pas si ma question est claire. Parce que comme tu fais un document qui est très générique, t'as forcément une application qui est pas prescrite de manière très très précise dans le document. Donc c'est normal d'avoir une PSSI qui est peut-être pas adaptée. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ma question.
Si je vois ce que tu veux dire. Le fait qu'elle soit vague, une PSSI, ça reste précis. Disons que juste, ça ne rentre pas dans les détails opérationnels. Maintenant, ce n'est pas forcément une faiblesse. Au contraire, c'est une force d'imprimer une direction et de laisser une latitude dans cette direction. Maintenant, il y a la question de, en effet, comment on la met en place, comment est-ce qu'on fait la revue de la PSSI chaque année. Donc il y a en effet le piège de se dire je fais une PSSI à un moment donné parce que mes partenaires la demandent, mais voilà, je me contente d'avoir le document. Mais le problème, c'est que le document, il est engageant, et demain j'ai un contrôle, ça commence par voilà, est-ce que vous appliquez votre PSSI. On va voir opérationnellement comment c'est appliqué, mais c'est pour ça que les formulations sont stratégiques. Et on en vient à un autre point en termes d'application de la PSSI. On parlait tout à l'heure d'implication des personnes. C'est important que la PSSI soit issue d'une forme de connaissances, voire de négociations avec les différentes populations qui vont être concernées, sinon elle ne pourra jamais être appliquée. C'est pour ça que le point de départ d'une PSSI, ça reste une forme d'audit, d'analyse de risque, où le RSSI ou le rédacteur va vraiment aller à la rencontre des populations concernées pour voir les pratiques et proposer une PSSI aussi qui soit réaliste, sinon elle ne sera jamais adoptée. Et quitte à ce qu'elle évolue dans le temps, une PSSI, évidemment, on peut la faire évoluer, même si c'est un document qui est censé être stable, elle évolue avec la structure, on peut la changer chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais c'est important de partir vraiment du concret, du terrain, parce que si on met des choses qui sont irréalisables pour le stade de maturité de l'entreprise, la PSSI, ça va juste être un document pour montrer on a une PSSI, mais autant la mettre à la poubelle, elle sert à rien. Si on met dans le document, on doit mettre de l'authentification double facteur pour tous les users et des mots de passe de 16 caractères, etc. Bon, il y a plein d'organisations qui sont incapables de mettre ça en place. Même sur le sujet, par exemple, des données de prod, c'est un sujet intéressant. C'est vrai que c'est un des sujets les plus compliqués, avec, on parlait aussi la dernière fois du droit admin sur les postes de travail pour les développeurs. C'est important d'impliquer, pour revenir au sujet des développeurs, les développeurs dans cette conversation. Parce que les développeurs, comme toutes les populations, ont un rôle. Le RSSI, lui, il va dire, voilà, moi, j'apporte le côté maîtrise du risque. Mais les différentes populations de l'entreprise, dont les développeurs, apportent le point de vue productivité. Et il y a un truc hyper important, c'est que si on fait trop de sécurité par rapport à ce que l'entreprise peut, par rapport à ce qui est acceptable pour l'entreprise, sans évidemment céder sur les fondamentaux, en fait, trop de sécurité tue la sécurité et c'est la porte ouverte au contournement. Donc c'est vraiment important de partir de la population pour que ce soit adopté et que ce soit pas complètement irréaliste, et de se dire on a une PSSI qui est là pour mettre des barrières, encadrer, mais pas qui fait de la sécurité pour faire de la sécurité. C'est une forme de partenariat, c'est-à-dire que si à un moment donné la politique de sécurité empêche de façon inacceptable la productivité du point de vue des personnes qui travaillent, elle a aucune chance d'être accepté. Donc il faut toujours cette négociation. Et pour revenir du coup à l'exemple des données de prod, ben il y a des organisations où c'est inenvisageable de se dire zéro donnée de prod en espace de test, même si c'est un idéal. Je pense qu'aujourd'hui pour 70% des entreprises, c'est un idéal très compliqué à atteindre, et donc mettre ça dans la PSSI, mettre des choses inatteignables un moment donné, ça vient la décrédibiliser en fait d'une certaine façon, parce qu'on se dit non mais c'est bon, c'est la PSSI, on sait très bien que c'est inapplicable, c'est juste un document. Faut éviter de se retrouver dans ce type de situation. Donc par exemple sur le point des données de prod, on peut essayer de trouver des formulations de compromis en disant on sait que il doit pas y avoir de données de tel niveau de sensibilité, par exemple en espace de test. Et on va se dire par exemple, voilà, une donnée qui dépasse tel niveau de sensibilité ne doit pas se retrouver en espace de test. Ou si on se retrouve avec une donnée qui dépasse tel niveau de sensibilité, ben cette donnée-là, spécifiquement, on va l'anonymiser. Voilà, essayer de trouver des points un petit peu de compromis. Donc c'est ça aussi l'esprit de la PSSI pour qu'elle soit applicable.
Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que si tu as un truc qui est complètement irréalisable,
c'est ça.
En fait, ça va faire tache d'huile sur le reste, ça décrédibilise l'ensemble du document, même c'est si ça. Tout le reste est bien important, sérieux.
Exactement.
Si tu as un truc qui est inatteignable pour tout le monde, c'est, ben, en fait, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, quoi.
C'est ça, exactement.
Alors, tu parlais du coup aussi des postes admin et du coup des devs. Vous vous adressez aujourd'hui à une population composée majoritairement de développeurs. Donc on a parlé effectivement des données de prod, on a parlé des droits admin sur les postes de travail. Quel est l'impact de cette PSSI sur le quotidien des devs? Ouh, il y a un blanc qui se fait.
Bah, Il y a un impact un peu plus spécial que par rapport aux autres utilisateurs, parce qu'on a dit tout à l'heure que les devs avaient des droits, c'est ça, et des devoirs, hein. surtout des devoirs. En réalité, si la PSCC est bien faite, si on rédige une PSCC, si on prend en compte une PSCC qui est active en fait, en fin de compte, dans la continuité de ce que disait Guillaume, qui enable le travail des devs et qu'on leur explique pourquoi, etc., bah, ça ne va pas plus compliquer leur tâche. Mm-hmm. Alors oui, ça va changer leur manière de travailler. On n'est plus admin de nos postes, on ne peut plus installer Discord, Steam et GOG ou tout autre. On ne fait pas de publicité, hein. Il n'y a pas de sponsor encore.
Enfin, si Steam veut sponsoriser, Steam, moi je suis partant. Hein,
On est sur Twitch, donc je teste. Hein. Donc Battle.net, tout ça, tous les autres. En lui enlevant le droit d'admin, en fait, c'est pas tant de lui enlever le droit d'admin, c'est de lui donner, il faudrait lui donner au dev, lui donner les droits d'installer ce dont il a besoin, des dépendances, des librairies dont il a besoin, son IDE éventuellement ou autre en fait, ou des environnements tests, etc. Mais sans lui donner les risques en fait. Et c'est le lien qu'il faut faire parce que la PSCC et l'analyse de risque, en fait, on n'en a pas encore parlé, c'est un peu le fait la poule. Est-ce qu'on réalise l'analyse de risque et on crée une PSCC derrière, ou est-ce qu'on rédige une PSCC où on dit qu'il faut faire une analyse de risque et on réalise une analyse de risque? Et en fait, le dev, il est ciblé par des risques très particuliers, du fait qu'il a des droits particuliers, du fait qu'il va créer des applications, des produits pour l'entreprise. Donc, il y a vraiment un faisceau de risques qui pointe vers lui. Donc, le but, c'est de lui donner les moyens de faire ce qu'il doit faire, donc produire sa valeur ajoutée, son code, ses applications, ses solutions, avec le moins de stress possible. Et le stress et le risque, bien sûr, être vecteur d'attaque, etc., etc. Donc, il faut faire ces deux exercices d'analyse de risque et de PSCC avec lui. Et il faut lui permettre de les faire de manière cool, de manière tranquille. Le problème, c'est que souvent, on prend les utilisateurs de haut, et les devs en particulier. Je parlais tout à l'heure de la guerre des devs et des ops, hein, qui avait lieu jadis, parce que maintenant tout le monde sait que depuis l'invention du mot DevOps, tout va bien, on s'aime tous, on fait tous des gros bisous et tout, on se fait des gros câlins en respectant les distanciations sociales, bien sûr, comme nous là aujourd'hui. Malheureusement, en fait, dans la réalité, on les prend de haut, ces devs, et on les implique pas dans la création de ces trucs-là. Et on leur impose des choses, parfois qui sont illogiques, ou alors on leur impose des choses sans leur expliquer, alors que c'est pas des enfants. On peut leur expliquer pourquoi est-ce qu'on va pas leur donner des droits super admin sur les machines. Et aujourd'hui, pour les devs qui travaillent avec du Linux, c'est normal de leur dire que tu lances pas ta session, que t'es pas en train de dev avec un compte root, que t'es pas en train de consulter Stack Exchange. Et ceux qui ont des Linux se sont peut-être fait rickroller au mieux, ou au pire, en copiant-collant des codes sur Internet. Ben, en fait, tu vas pas utiliser ton compte root pour aller sur Internet, etc. Donc non, et cette notion de sudo, elle existe par rapport à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on durcit, pourquoi on lance pas son serveur web avec un root, etc. C'est aujourd'hui des choses que les devs comprennent, et ben, il faut continuer de le faire partout et tout le temps. Et d'un coup, ils deviennent plus juste des gens qui subissent et à qui on impose des choses, bah, comme tout le reste des utilisateurs. D'ailleurs, tous mes utilisateurs et toutes mes utilisatrices, je leur impose pas des choses comme un dictateur éclairé, etc. Non, on en fait. C'est des membres du dispositif de sécurité. C'est même des gens qui vont me remonter des alertes, des vulnérabilités. Quand on a des programmes de bug bounty, c'est eux qui vont prendre en charge le patching, la communication, etc., etc., etc. Donc, faut les responsabiliser. Faut que ça devienne des membres de cette armée de la sécurité qui combat les méchants pirates des internets.
Mais comment est-ce que vous gérez du coup le, parce que t'as une espèce d'ambivalence, et comme tu le dis, il y a un focus qui est fait sur le dev parce que, de par son métier, de par son activité, c'est le dev qui va créer des nouvelles portes d'entrée éventuelles pour des attaquants, en mettant en place une application qui est mal protégée ou qui est mal codée, ou qui est pas suffisamment mise à jour. Et donc, on va dire que c'est le premier créateur de failles de sécurité, mais en même temps, c'est aussi... Enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'il se présente. L'utilisateur le plus au fait des problèmes de sécurité, et c'est clairement le dev qui va dire, bah moi, je vais pas cliquer sur une pièce jointe au hasard, je fais attention au mot de passe, tu vois. Donc, il peut avoir un côté Toi, t'as envie de faire attention à lui, mais de l'autre côté, il va te dire, mais en fait, moi, je sais de quoi je parle, j'ai pas besoin de tes guidelines.
Ouais, mais ça, c'est un super biais cognitif que j'observe souvent, et pas que chez les devs, hein, pour la peine. que ce soit chez les devs, dans les équipes sécurité, les admins, et parfois même dans certains membres du COMEX, qui pensent bah, en fait, qu'ils sont intouchables. Mais moi, je pourrais dire, bah tiens, je suis RSSI, super, les gars, je suis directeur de la sécurité, regardez, j'ai tout compris, ça fait 15 ans que je pone des choses en toute légalité, rappelons-le. Je me suis jamais fait prendre. Je vais pas me faire prendre, c'est bon, je peux exécuter mon navigateur en tant que root. Bah non, en fait, la loi de Murphy nous prouve que non, plus ça va bien, plus ça risque de mal aller. Hein. Et les devs se font avoir comme tous les autres. Je sais plus quel dev me disait que la dernière fois, dans son lit, il était en train de commander des choses. Hein.
Alors,
je peux laisserai faire son coming out.
Non, tu peux dire que c'est moi, je l'ai déjà raconté sur le podcast, qu'effectivement, n'importe quel dev, moi ça m'est arrivé, effectivement, un jour de voir une publicité sur Facebook et d'acheter un produit sur un site chinois, parce que j'avais vu une pub, ça avait l'air bien. Il était un peu tôt et j'ai mis ma carte bleue sur un site que je ne connaissais pas après avoir cliqué sur une pub Facebook, ce qui est effectivement, c'est pas mon heure de gloire, très clairement. mais voilà, ça arrive effectivement à tout le monde. Et du coup, toi, Guillaume, ton rapport au dev, quand sur une PSSI, comment tu gères cette population si particulière?
Oui, alors, bon, d'abord sur la question de l'impact que la PSSI peut avoir sur la vie du dev. D'abord, comme je le disais, la notion de responsabilité, ça veut dire qu'on les responsabilise et les lead dev et les managers aussi ont une responsabilité du coup qui est inscrite dans la PSSI vis-à-vis de la Sécu. Et après, ouais, très concrètement, les règles qu'il peut y avoir et qui peut impacter la vie des devs, il y a une attente aussi en termes de, je pense que c'est important, en termes de visibilité, de documentation, il faut savoir exactement qui a quel compte, avec quel droit. C'est important de documenter aussi ce qu'il fait sur l'application pour pouvoir retracer un incident. Donc il y a toutes ces choses-là. De toute façon, c'est le cœur de la PSSI aussi, c'est de commencer à documenter. Donc ça, je pense, c'est des façons où concrètement, ça va potentiellement changer la vie des devs en termes de responsabilité et d'incitation à documenter pour avoir de la visibilité sur ce qui se fait. Et après, ben, techniquement, voilà. L'inciter à respecter le OWASP, c'est une très bonne ressource, hein, inciter à respecter du coup les règles qui évitent les grandes vulnérabilités de l'OWASP, tout ce qui évite ce qu'on appelle les buffer overflow, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait un contrôle sur les inputs qui sont mis à chaque fois qu'il y a des champs où on peut mettre des inputs, etc. Après, sur mon rapport au dev, alors c'est vrai que c'est toujours moins évident, mais de toute façon, on fait face en tant que RSSI à ça aussi en parlant à d'autres populations, quand il faut aller parler au compta, à la compta, au RH, etc. Mais c'est vrai qu'avec les devs, surtout quand on n'a pas un profil tech, c'est encore plus prononcé. Disons qu'au fur et à mesure, j'arrive à savoir quand le dev que j'ai en face de moi essaie de m'enfumer. Parce qu'il faut dire que c'est souvent un réflexe qu'on a quand on a des devs en face. Ils se disent « Ah ben, il est pas tech, on va facilement l'enfumer. » Donc là, je le sens maintenant assez facilement. Donc ce que j'essaye en général, c'est de me dire « Il faut que je comprenne les choses de façon très simple. Si t'es pas capable de m'expliquer les choses de façon simple, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. » Parce que tout peut s'expliquer de façon très simple. Donc voilà, donc faut être patient, faut réussir à faire comprendre aussi que... Après, il y a plusieurs types de profils. Il y a des profils très très coopératifs. Il y a des profils qui parfois sont un petit peu plus durs parce qu'ils veulent pas changer leur façon de faire. Donc ça demande des skills de négo, de patience, d'essayer de... Après, je pense que les difficultés auxquelles je vais faire face en tant que profil non-tech, le profil tech, il y fera face aussi parce que le dev qui veut pas changer, qui veut pas se conformer, il va essayer de faire de l'enfumage avec tout le monde. Donc je pense qu'on est confronté au même type de difficultés. Simplement, voilà, j'ai moins le langage initial pour... mais voilà, il y a toujours les techniques de se dire non, mais là il y a un problème, là il faut trouver une solution, quelle solution on trouve, etc. Donc bon, mais je encore une fois, je suis pas certain en fait au final que dans la discussion avec les devs ce soit forcément plus dur qu'avec le reste des utilisateurs, parce que tous les utilisateurs en fait peuvent avoir envie de pas se conformer, de contourner. Donc voilà, après c'est des skills de patience, de négo, de management.
Et je pense systématiquement un back to the basics en fait. Moi je pense que c'est la question que je me pose, que je pose tout le temps, mais dans plein de contextes, ça va devenir. Je pense que je vais imprimer des t-shirts avec. C'est quoi le besoin en fait? C'est quoi tes requirements?
C'est ça.
Et bêtement, avec un dev, je pense que c'est aussi ça, il faut rappeler que notre boulot, c'est de faire de la sécurité. C'est de sécuriser, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il fait, le dev, mais c'est de lui permettre là où il excelle. C'est de lui permettre de faire du code, de pondre du code, du code qui est bien et de créer, de concevoir des solutions, parce que c'est pas que de pondre du code, hein, maintenant c'est de plus en plus global en fait, et holistique. Donc c'est de lui permettre de faire ça de manière sécurisée. Et il faut parfois juste lui demander c'est quoi ton requirement, pourquoi est-ce que tu as besoin de ces comptes admin, ou pourquoi tu as besoin de faire ça, etc. Lui ramener des choses, parce qu'on ramène aussi des nouvelles choses. Hein. Vous allez beaucoup moins m'entendre parler de threat modeling, d'analyse de la menace, qui est une sorte d'analyse de risque. Alors, pas global cette fois pour toute l'entreprise, mais vraiment focus sur l'application que je suis en train de dev. Imaginons que je suis en train de créer un champ de recherche. Eh bien, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mon champ de recherche prend des inputs. Donc, ces inputs, il faut qu'elles soient traitées, il faut qu'elles soient validées, échappées, etc. etc. Il ne faut pas qu'elles puissent pourrir là où elles tombent. Qu'importe où soit là où elles tombent, et surtout qu'elles soient bien interprétées là où elles sont interprétées, donc c'est un grand combo. Mais il faut qu'on fasse ça en diminuant la charge cognitive, parce que comme tout le monde en fait, le dev c'est pour moi c'est comme toutes mes utilisatrices et mes utilisateurs, c'est un chauffeur de Formule 1. Le chauffeur de Formule 1, il est très très bon pour conduire à fond, faire plein de trucs, polluer, etc. Mais là où il est moins bon, ouais, je passe des messages politiques un peu discrètement, t'as vu. Et par contre, le chauffeur de Formule 1, en fait, quelque part, il s'en fout de savoir remplacer une roue en 3-4 secondes, tu vois, 4 roues de... Non, il a tout un truc, tout un tas de gens qui le font. Il a quand même une notion que les roues doivent être changées, donc il va s'arrêter pour faire son check-up de sa voiture, mais lui, ce qu'il veut, c'est repartir tout de suite. Donc, et nous, en tant que RSSI, quelque part, on regarde l'écurie, toute l'écurie, donc nous, on veut juste que tout ça communique ensemble. Et donc, il faut mettre les outils, les process, etc., de manière la plus... Alors, je vais utiliser un terme, mais vraiment dans son sens premier, dans son sens vulgaire, c'est agile. Il faut que ça soit agile, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit naturel, et que ça ne prenne pas des milliards de temps. Parce que le problème que j'ai eu, moi, dans... Alors, ça fait un peu le mec qui sauce la nouvelle boîte où il est. Les problèmes que j'ai eu dans des boîtes que je dirais historiques, par rapport à Albancourt, avec des stacks, pas que technologiques, même mentales et intellectuelles, c'est que c'est lent. Et on a des analyses de risque et des process qui sont relous, en fait. Et ta limite, quand tu parles de bypass, limite, le dev, il a envie de faire sa map en scred plutôt que de se prendre un jalon au bout du truc qui va le ralentir, qui va pas lui ramener de valeur ajoutée, où on va lui donner des guidelines qui lui parlent pas, tu vois, où on va le former ou le sensibiliser à des choses qu'il sait déjà, comme tu dis, en fin de compte, il sait déjà, en fait, je suis pas bête, je sais déjà qu'il faut pas faire copier-coller tout bêtement, qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça, tu vois. Il faut vraiment contextualiser, il faut vraiment accompagner les devs à diminuer leur charge cognitive, et ça c'est comme pour tous les utilisateurs. Et par rapport à l'intérêt, faut contextualiser. Tu parlais du projet, d'un des projets de l'OASP dont je suis membre, hein. Pour la peine c'est de la pub à nouveau. L'OASP c'est une superbe fondation, hein, Open Web Application Security Platform, qui a plein de projets, c'est libre, c'est pas propriétaire. Il y a plein de projets sympas, notamment un, l'OASP Top 10 Project, qui rassemble les 10 projets, les 10 risques dont les applications web qu'on va rencontrer le plus. J'en ai parlé tout à l'heure d'un, c'est les problèmes de cloisonnement et d'access control. Eh bien, dans plein d'entreprises et dans plein de PSC, on me dit oui, il faut appliquer l'OASP Top 10. Mais en fait, l'OASP Top 10, c'est vraiment 10 risques qu'on met pour illustrer, pour expliquer, etc. Derrière, on a l'ASVS qui est un super projet de 400 pages bien complet. Eh bien, j'ai vu des développeurs bailler quand je parlais d'OASP Top 10 parce qu'ils l'ont entendu, mais de manière générique, en parlant pas leur langage, alors qu'en divant dedans et en prenant la SVS, en détaillant par rapport à leur application et en donnant des exemples contextuels, en parlant de NoSQL injection plutôt que d'injection SQL parce que ça faisait pas sens chez eux, eh bien tout de suite ils étaient intéressés, etc. Donc diminuer la charge cognitive et intéresser les développeurs.
Ouais, c'est intéressant. Ouais, je confirme et je...
Plus soit
sur l'idée de vraiment le point de départ toujours, c'est les requirements, c'est quel est le besoin. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Est-ce qu'on peut pas faire autrement pour que tu fasses ça? Mais vraiment le point de départ qu'il faut partir et duquel il faut systématiquement partir quand on fait de la sécu, et c'est et la personne qui fait pas ça en faisant de la sécu, elle fait pas vraiment de la sécu, elle fait pas bien son taf, c'est le besoin. C'est quel est ton besoin? Moi, mon objectif, c'est que tu puisses réaliser ton besoin. Simplement voilà, en mettant des barrières et en éliminant toutes les choses que tu fais potentiellement qui mettent en danger la boîte et que tu n'as pas besoin de faire. Mais mon objectif, c'est que tu réalises ton besoin, simplement que tu le réalises d'une façon qui ne mette pas en danger la boîte. Et si tu me dis, ben, moi j'ai besoin de faire ça, j'ai vraiment besoin de tel droit, etc. pour le faire, ben, tu les auras. Simplement, il faut que ça corresponde à un besoin. C'est vraiment le point de départ. Et dans l'esprit des devs aussi, ce qui amène la PSSI en termes de changement, en tout cas dans l'idéal, c'est de se dire, du coup comme je parle de besoin et de quand on fait des specs aussi sur voilà, un nouveau projet qu'on développe, etc., c'est inclure dès le départ dans ces specs aussi la sécu et pas attendre la fin. Ça aussi c'est un point très important que la PSSI cherche à inculquer comme principe. De façon générale, ouais.
Oui, ça sur la sécurité, je pense que maintenant c'est relativement acquis qu'il vaut mieux l'inclure au début du projet plutôt que d'essayer de sécuriser après où ça marche pas, quoi. Du coup, dans ce que vous décrivez, j'essaye d'allier d'un côté ce côté très. Alors, je sais bien que j'utilise le terme générique un petit peu à tort, mais un côté quand même très. Très une vision globale de la PSSI. Ouais. Et en même temps, dans ce que vous décrivez, dans ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même des règles assez précises qui vont être données aux devs sur les règles de mise à jour. Tu vois, on a parlé de données de pré-prod qui ne sont pas des données de prod, de la gestion des accès et compagnie. À quel point la PSSI, elle va donner des règles sur comment est-ce qu'un dev doit dev? Encore un blanc, je pose des questions.
Pour la peine, je pense que c'est une PSSI, c'est comme un général. C'est un général qui me l'a expliqué, donc je pense qu'il avait raison. Il me disait, tu sais, nous, en fait, quand je donne un ordre, en fait, je demande, il faut que vous alliez d'un point A à un point B. Il faut que vous envahissez tel point. Et selon, c'est vraiment une vraie histoire, en fait, c'est un partage d'XP, c'est assez marrant. Et il me disait, en fait, selon les régiments, selon le type d'armée ou de troupes que j'avais, selon si c'était des comment on appelle ceux qui ont les tabliers, la barbe, là, voilà du boudin.
Les bouchers,
non. C'est la Légion étrangère.
D'accord.
Alors,
la barbe n'est pas obligatoire, la Légion étrangère.
Ah oui, je pensais. Ah, purée. Donc, la Légion étrangère, il me disait, ils traçaient, tu vois. Alors, eux, c'est des matheux, cartésiens, pour la peine, tu vois. Point A, point B, ils tracent, ils coupent tout ce qui est devant, c'est des bourrins, nickel. Les alpins, ils vont essayer de trouver la route la plus sécurisée, la plus stable, celle qui va les fatiguer moins, etc. Et selon les régiments, c'est à les changer. La PSSI, c'est pareil, en fait. On va donner un état d'esprit. On va dire un truc tout bête. On va dire, il faut avoir une gestion de changement. Gérer le changement du code. Je vais pas te dire, utilise pour les vieux, ça va leur parler peut-être. CVS. SVN, tu vois, etc., ou Git, ou tu utilises ce que tu veux. Je veux juste que ton code, il soit versionné, que si jamais tu fais une erreur, en fait, tu puisses faire un rollback, etc. Pareil, dire, il faut que tu aies une CI/CD avec du SAST, du DAST, et même ça, en fait, on peut le faire selon la volonté de l'entreprise, selon la maturité de l'entreprise, on peut le faire de manière plus ou moins générique. Bon, ça peut être, il faut que le développement suive un cycle de SDLC ou SPLC, un cycle de développement, Secure Development Lifecycle ou Product Lifecycle, etc. Et on ne rentre pas dans les détails. Et après, nous, dans nos procédures, ça peut être les feature teams ou les directions techniques ou les tribes ou les guilds selon l'organisation de l'entreprise, qui vont dire, oui, écoute, nous, on veut utiliser le projet OWASP ZAP, Z-Attack Proxy, qui est libre, qui marche très bien pour scanner de manière dynamique mon application. Il y en a d'autres qui vont dire, non, nous, on est des pigeons, on a de l'argent, on veut utiliser Burp ou tel truc, ou on préfère utiliser SonarQube ou tel autre, ou Sneak ou telle autre solution pour la partie statique, pour la partie SAST. Mais ça va être dans les procédures, ça va être dans les mode-ups, ça va être vraiment dans les choix qui sont entre les mains des développeurs. Et la PSSI, elle veut pas enlever la sécurité de la main des opérationnels. Au contraire, les opérationnels, c'est eux les soldats, c'est eux qui vont aller à la guerre, c'est eux qui vont tirer sur la gâchette. Donc c'est eux qui savent mieux, en fait, et il faut qu'ils prennent ce qui est agréable pour eux. Encore une fois, c'est ce qui est agréable pour eux, ce avec le quoi ils sont le plus à l'aise. On va pas leur imposer un langage de développement, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume. On va pas leur imposer un logiciel de versionning, etc. Faut qu'ils choisissent ce qu'ils maîtrisent et ce qu'ils préfèrent.
Mais du coup, comment tu fais pour imposer justement à des devs? Parce que tu n'as rien dans une structure, tu mets en place une PSSI. On suppose que si tu le fais, c'est qu'il n'y avait rien avant, que donc potentiellement les gens ne faisaient pas ce qu'il fallait avant. Comment tu fais pour imposer à une population de devs des nouvelles façons de faire, peut-être sans aller jusqu'à imposer les outils, mais en tout cas imposer des nouvelles façons de faire, tout en restant justement global et sans leur imposer quoi que ce soit?
Justement, on n'impose pas, comme je disais, ça doit vraiment être le fruit d'une discussion avec eux. L'idée, c'est de se dire, nous voilà, il faut qu'on avance sur le sujet de la sécu. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des exigences qui sont réalistes pour vous, mais qui en même temps remplissent l'objectif de la sécu? Donc, il faut les impliquer dès le départ pour pas qu'ils sentent que c'est imposé. Parce que c'est pas l'idée. On n'est pas là pour faire la police. Et ensuite, il faut se dire que la PSSI, en fait, quand on va lire les exigences, c'est pas tant... je dois pas tant me dire, tiens, est-ce que... disons que ça en fait, faut se dire, quand on rédige la PSSI par rapport à la façon de fonctionner de l'organisation et à la maturité de l'organisation, sur quel sujet je ne veux pas la moindre ambiguïté. Disons que la PSSI, elle émet des principes qui vont permettre d'établir un état d'esprit, comme tu le dis, et c'est moins une checklist de ce que je fais opérationnellement qu'un ensemble de principes où je dois me dire, tiens, qu'est-ce que je mets en place pour respecter ce principe-là, sachant que j'ai une latitude. Et il y a des sujets sur lesquels, pour le coup, je vais laisser beaucoup moins de latitude et beaucoup moins d'ambiguïté, parce que ça, je sais que ça, pour le coup, on peut le faire, et il ne faut vraiment pas laisser d'ambiguïté sur ça. Et c'est une négo, ça veut dire, sur des points où je sens que il n'y a pas encore une maturité qui permet d'atteindre un certain point, ben, je vais commencer par émettre le principe de façon générale, mais sans rentrer dans trop de détails. À mesure que l'organisation monte en maturité, je vais peut-être mettre plus de détails dans la PSSI. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... et par exemple, pour venir aux grands principes dans tous les cas qu'on va retrouver quoi qu'il arrive et qui vont guider quand même la rédaction de la PSSI, parce que je dis il y a une négociation, et c'est une négociation qui se fait dans certains principes, et les principes, mais qui s'appliquent à tout le monde, pas que aux devs, ça reste le moindre privilège. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que tu aies le moins de privilèges possible par rapport à ton besoin. C'est des principes moindre privilège. En réalité, déjà, ça, c'est un très gros principe à aller chercher. Le principe de ne pas mélanger trop les données de prod sur les espaces de pré-prod, de security by design, mettre la sécurité depuis le départ. Bon, c'est des grands principes. Et chez les devs, voilà, on va voir dans quelle mesure on peut les mettre en place. Et est-ce que se dire, par exemple, bon, je dis des mots de passe d'au moins 16 caractères, est-ce que c'est jouable pour vous ou pas? Pourquoi c'est pas jouable si vous pouvez pas le faire? La double autente sur les comptes administrateurs des accès à AWS, est-ce que vous le mettez? Pourquoi vous le mettez pas? Ça c'est quand même compliqué de pas le mettre, il faut trouver une façon. Bon, ça va vraiment être une discussion, il faut les impliquer. Il faut pas qu'ils le sentent comme quelque chose qu'on leur impose. Et si jamais on sent qu'il y a un sujet sur lequel c'est compliqué, ben on se laisse une latitude et on se dit bon, on reste un peu vague sur ça. Sur la question de la documentation, si on n'est pas mature sur la documentation, dans un premier temps, pour pas qu'ils se sentent trop « ah, ça fait beaucoup de choses d'un coup », ben on va rester vague, on va dire voilà, il faut documenter, il faut... j'en sais rien, il faut documenter...
Les 20% de features ou
sans forcément rentrer dans le détail de je veux documenter ça, et à mesure qu'on évolue, on se dit bon, ça on sait que c'est essentiel, ben il faut à minima garder documenter ça, etc. Idem sur la gestion des traces, qu'est-ce qu'on veut garder. Bon, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, ouais. Mais c'est vraiment une négociation et on part vraiment du développeur, quoi.
Alors je comprends pleinement, ouais. La démarche, vous êtes au final tous les deux aujourd'hui RSSI sur différents aspects. Vous adressez aujourd'hui à une population de développeurs, donc nous, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, quand vous mettez en place une PSSI, Vous le faites en incluant les devs et en faisant en sorte qu'ils prennent pleinement part au projet. Imaginons que parmi les devs qui écoutent aujourd'hui, il y en a certains qui n'aient pas cette impression-là. Est-ce que c'est parce que lui n'a pas su, on va dire, comprendre ce que le RSSI voulait, ou est-ce qu'il y a quand même aussi parfois un côté un peu... alors tu parlais de général tout à l'heure, mais quand t'es un peu dictateur du RSSI qui peut arriver en disant maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement et qui vient du coup en fait nous casser les doigts à nous les devs.
Bah, c'est sûr que l'approche du RSSI elle est importante, et si les gens ont ce ressenti, c'est que y a peut-être eu un problème dans l'approche et dans la façon d'amener les choses. Je pense que le RSSI dans sa façon d'amener les choses, il doit pas les amener de façon dictatoriale. Maintenant, il doit savoir ne pas céder sur certains points. Je pense que quand on est une équipe de 15 devs et que tout le monde a les droits admin sur AWS, il y a un problème. On ne peut pas céder sur ça. Mais en tout cas, voilà, il doit y avoir une subtilité du RSSI où de base, il fait comprendre. En tant que RSSI, on peut arriver avec un certain nombre d'idées conçues. Il faut être ouvert au développeur qui va nous dire « Non, mais ça, je suis honnête avec toi. C'est pas possible, c'est irréaliste pour nous, notre fonctionnement actuel. On peut pas avoir ça dans la PSSI. Il faut être ouvert à ça. On peut pas avoir, en fonction de la maturité de l'organisation, toutes les exigences de l'état de l'art dans une PSSI. Donc, faut que le RSSI il ait cette capacité quand même de s'adapter, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais en fait, je pense que en tant que RSSI, on est agent du changement.
Oui,
On ramène du changement, donc on est tous humains. Le changement, bon, voilà, le deuil, tout ça, on est triste, on est en colère, etc. Mais comme tu as dit, en fait, il y a, je vais prendre un peu, je vais me faire l'avocat du diable, enfin du dev, pardon. La PSSI, moi, j'ai vu aussi beaucoup de boîtes qui recrutent des consultants. En fait, il y a plein de boîtes de conseils qui font du copier-coller, comme quoi il n'y a pas que les devs et Stack Exchange. il y a plein de boîtes de conseils qui font de la PSSI une activité rémunérée très 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 lucrative. Et ils viennent, ils imposent des choses sans vraiment prendre en compte le contexte, sans être à l'écoute. Donc, est-ce que les devs parfois sont laissés au côté de la route en fait, et on prend pas leurs besoins en compte? Certainement. Après, est-ce que c'est systématiquement fait dans un acte de malveillance ou d'égocentricité ou autre des RSSI? Je pense pas, parce que il y a des industries qui peuvent pas se permettre le contraire. L'entreprise dont je parlais tout à l'heure, c'est un grand industriel français présent dans le monde entier, qui a eu une grosse attaque sainte informatique de partout. pour ceux qui ont compris le petit clin d'œil de partout. Donc du coup, eux, du jour au lendemain, ils ont eu un budget, je pense qu'ils sont passés de quoi, de 10 000 euros à je sais pas combien de millions d'euros pour pouvoir répondre à cet incident là et d'un coup ils sont bien rendu compte que ils peuvent plus faire autrement. Il y a plein de choses aussi dans la presse, TV5 Monde ou autres, qui sont fait avoir via une caméra, je pense, de mémoire, avec je me rappelle plus exactement des détails, mais par rapport à un défaut de mise à jour, etc. Et quand on voit tous les tiers de confiance de boîtes, d'industriels dans l'aéronautique, etc., on voit qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. De même, si on travaille au MINDEF, c'est clair que je peux vous dire que les DSSI, ils sont pas à l'écoute, enfin ils sont à l'écoute des... Je vais me faire engueuler après le podcast. Mais... ils sont à l'écoute, bien évidemment, de leurs devs, mais ils ont des injonctions quelque part où ils peuvent pas faire autrement. Maintenant, que peut faire le dev? C'est vraiment trouver des canaux de communication. Encore une fois, je reviens vers l'agilité, vers le côté de la bonne entente dans l'entreprise. Moi, si j'ai cette démarche, alors ça correspond à mon cheminement personnel, philosophique, mais même professionnel. Mais au sein de mon entreprise, c'est aussi le cas. La communication, le partage, la transparence, c'est vraiment des valeurs qu'on a chez nous. Je pense qu'on les a pas inventées, parce que c'est les valeurs de l'agile qu'on me répète depuis 2004, depuis que je fais de l'agile sans savoir que je faisais de l'agile. J'étais pas trop dans le marketing à l'époque. je lisais pas les magazines avec des buzzwords. Mais en fait, la transparence, c'est ce qu'on nous a appris. À l'époque, pareil, en fait, j'ai eu la chance, moi, d'être dans une entreprise qui faisait des mèmes tout le temps. Eh bien, oui, j'ai pas choisi d'écouter les devs pour me faire plaisir. En fait, on a dû communiquer pour pouvoir respecter le time to market, hein, d'un point de vue très très capitaliste, et de pouvoir committer, de pouvoir envoyer des opportunités de vente, etc., tout ça. Donc oui, il faut juste, s'il y a un défaut au niveau de la sécurité, soit ça vient vraiment de la cellule sécurité, parce que là il y a des questions à se poser, soit c'est plus transverse, et souvent c'est le cas en fait dans l'entreprise, et c'est peut-être là où la PSSI peut jouer un rôle, parce que si la PSSI c'est une lettre de marque signée de la main ou du sang, selon les pratiques occulte en vigueur dans l'entreprise du COMEX, eh bien, faut que ça reste quand même cohérent avec la pratique de l'entreprise. Quand je disais que tout à l'heure, que mon CTO, il me dit non, c'est pas une opportunité d'amélioration d'écouter les utilisateurs. En fait, c'est une obligation. Et qui dit utilisateur dit développeur aussi. Donc,
pour essayer de terminer, sur un dernier point sur ce sujet de la PSSI, quel impact ou quel apport a eu RGPD sur tous ces aspects de la PSSI?
Le RGPD, clairement, via la peur de l'amende, a eu un gros impact sur les sujets de sécu en termes de conformité. Après, je pense que même indépendamment du RGPD, tout ce qu'on entend, toutes les grosses vagues d'attaques qu'il y a eu récemment, contribuaient quand même aussi... À la prise de conscience, mais oui, disons que le fait de se conformer au RGPD en tout cas est un booster bienvenu pour se poser dans la foulée la question de la sécurité. Donc c'est sûr que ça a été positif, ouais.
Ouais, complètement. Alors, complètement, mais différemment. Non, je pense que la RGPD a fait beaucoup de bien à la sécurité de l'information, à la privacy aussi. Oui. Puisque en fin de compte, dans certaines entreprises, et je pense surtout à celles qui ne respectent toujours pas la RGPD ou qui tout simplement trouvent des bypass, hein, pense aux GAFAM, etc. Ben, en fait, eux, sans la RGPD, nos données, ils ne feraient même pas mine de s'y intéresser, de les sécuriser. Hein. Microsoft, Google, tous ceux qui engrangent nos données personnelles et qui en font ce qu'ils veulent... sans la RGPD, ils ne feraient pas le minimum qu'ils sont en train de faire là maintenant. Et je pense quand même que la RGPD a beaucoup servi, que l'amende, en fait, et de taper sur les doigts, ça a beaucoup servi à prendre en compte, en fait, certains usages, en fait, qui relèvent de l'hygiène informatique. La RGPD, quand il y a des choses que je découvre à chaque fois avec bonheur, que c'est présent au niveau de la RGPD, pardon. Et pour moi, c'est de l'hygiène informatique, en fait. Je ne comprends même pas pourquoi on l'applique pas, et c'est triste de voir que en fin de compte que ce n'est que par la peur de l'amende que les gens se mettent en ordre.
Je vois.
Mais dans les principes intéressants aussi de la RGPD, du coup, qui a contribué, enfin que le RGPD a contribué à bénéficier, c'est vraiment l'approche par les risques qui intègre bien le fait que la sécurité, c'est le résultat d'une négociation, c'est pas de la pure conformité. Dans le RGPD, il y a des aspects de conformité pas négociables, mais il y a des aspects d'approche par les risques où on va vraiment s'adapter à chaque contexte et où on se dit, voilà, un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a des aspects qui sont pas négociables, mais il y en a d'autres qui sont le résultat d'une négociation. C'est vraiment l'approche par les risques qui s'adapte au contexte. Donc ça aussi, c'est très intéressant dans les principes. Après, pour nuancer aussi, mais ça, c'est dans la sécu de façon générale, on a toujours les ayatollahs de la conformité qui, il faut le dire, dans le camp de la sécu, il y a des gens qui sont incapables, alors que c'est censé être leur métier, qui ne voient les choses que sous l'angle de la conformité, qui sont incapables d'avoir cette approche par les risques plus subtile. Donc ça, bon, il y aura toujours des ayatollahs, que ce soit
dans subtilité et conformité.
Voilà,
ça fait trois mots.
C'est ça.
Merci beaucoup pour tout ça. J'aurais une dernière question qui est la question rituelle du podcast IFTDD, mais que du coup je ne pourrais poser qu'à Zach ce soir. Du coup, Zach, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation?
Alors, sans aucune hésitation, tabulation, bien sûr.
Très bien. Merci beaucoup à vous.
Non, j'allais juste te dire, en plus, il y a vraiment des gens qui répondent espace alors que c'est...
Alors, je donne pas le... Si, il y a des gens qui savent, mais si je fais les stats sur les réponses à cette question sur le podcast, on a une répartition de 60-40. D'accord, je ne dirai pas en faveur de quoi.
Ah là là.
Certains savent, alors, mais pas tous. Mais...
Et j'ai entendu certaines rumeurs comme quoi tabulation serait 4 espaces ou 5 espaces. C'est contre nature, hein, je le signale.
Je crois que c'est relativement homogène sur le 4 espaces. Ouais. Mais voilà. Et en tout cas, non, le débat, entre guillemets, est encore ouvert. ne sait pas encore.
Est-ce que je peux te poser une question?
Vas-y.
VI ou nano?
Alors moi je suis plutôt nano, mais on m'a effectivement suggéré de changer la question. VI ou Emax, mais du coup il y a Emax, il y a nano, il y en a beaucoup, et j'ai préféré garder parce qu'en fait quand je m'adresse à un développeur Swift par exemple, lui ça le concerne pas, je suis resté sur l'espace tabulation qui est plus générique pour l'ensemble des devs. Merci beaucoup en tout cas à vous deux pour cet épisode.
Merci à toi Bruno.
Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Voilà, j'espère que on vous a permis de prendre conscience des sujets de sécurité, qu'on vous a donné les clés aussi pour comprendre peut-être votre RSSI, qui en fait est quelqu'un qui ne veut que votre bien. Donc sachez aller lui parler, lui poser des questions et vous impliquer du coup sur tout ce qu'il peut apporter. Je vous remercie aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous. Il y a plein moyen de participer entre guillemets à l'aventure FTTD. Il y a le Discord, il y a le Twitter, il y a le Patreon, il y a la boutique. Tout est en description de cet épisode. Mais voilà, continuez à partager autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur la plateforme que vous préférez. Il y a de fortes chances que j'y sois sous le nom Bibir, B-I-B-E-R. Et donc voilà, merci de continuer à me faire vivre cette aventure qui est absolument, absolument canon. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, commitez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisthendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.